Paradoxalement, alors que le patrimoine semble aujourd'hui une valeur partagée par tous, il existe de nombreux débats sur les modalités de l'action publique patrimoniale. Commençons par évoquer les controverses liées à la place du PLU dans la loi LCAP de 2016. En effet, le premier projet prévoyait de supprimer les secteurs sauvegardés et les autres documents territorialisés au profit de cités historiques qui devaient être régulées par les PLU. Suite aux nombreuses oppositions, ce projet a été modifié au Sénat et amendé par le gouvernement pour renforcer le rôle d'une commission nationale du patrimoine et de l'architecture et pour maintenir des documents spécifiques liés à des sites patrimoniaux remarquables. Alors, ces oppositions qui étaient portées par des associations, qui étaient portées par des spécialistes du patrimoine, ont été amplement reliées par des maires ou par certains maires qui pointaient le retrait de l'État, l'instabilité du PLU et la possibilité de trop grande prise des acteurs du développement urbain sur le document d'urbanisme. En France, ces controverses sont marquées aussi par le jeu complexe entre les acteurs locaux et les représentants de l'État, incarnés ici par l'ABF. Les acteurs locaux ont des relations ambivalentes avec les ABF. D'un côté, ils peuvent critiquer les avis considérés comme discrétionnaires, et de l'autre, ils peuvent se réfugier derrière l'ABF pour maintenir des niveaux de protection élevés, pouvant susciter des oppositions des propriétaires. Alors, signalons aussi qu'en France, les conditions concrètes de la production du patrimoine ne sont pas liées simplement à la mise en place des PLU, mais à la superposition de l'action de différents types d'instruments portés par des acteurs différents. Et on peut analyser chaque contexte local comme étant marqué par des relations plus ou moins coopérative ou plus ou moins conflictuelle entre les acteurs portant les différentes formes de régulation patrimoniale. Il existe d'autres types de conflits. Si on commence par le contentieux, il y a deux types de contentieux. D'une part, un contentieux porté par des associations de riverains ou des associations de protection du patrimoine qui visent à s'opposer à la destruction de bâtiments, s'opposer à des partis pris architecturaux, et d'autre part, un ample contentieux individuel portant sur des oppositions à des refus de permis de construire ou à des permis de construire attribués à des voisins. Alors, en dehors de tout type de contentieux, on peut identifier différentes formes de controverses ou de débats autour de la prise en compte du patrimoine à l'intérieur des PLU. D'abord, au moment de la décision d'intégrer tel ou tel élément au sein du document d'urbanisme, il peut y avoir des oppositions divergentes, des oppositions différentes entre certains acteurs sur les éléments à inclure, sur les éléments à exclure, sur les types de constructions à protéger. Alors, dans certains cas, ces oppositions peuvent être transformées en controverses lorsqu'elles sont relayées par des associations qui les portent sur la place publique et lorsque la presse s'en fait écho. Le degré de l'ambition patrimoniale et la transparence de la sélection effectuée sont aussi des éléments qui peuvent être questionnés. Signalons de plus une autre tension liée à l'assimilation entre identification et protection. Certains documents identifient simplement des éléments comme remarquables et ne mettent pas en place des dispositifs normatifs sur ces éléments, mais simplement des recommandations. Des personnes peuvent s'opposer à la démolition ou modification de ces éléments qui ont été identifiés parce qu'en considérant que tout le type d'identification doit se traduire par le maintien de l'existant. Dans certains cas, l'existence d'inventaires non normatifs est utilisée comme argument pour s'opposer à des démolitions. Signalons aussi l'existence de débats entre différents objectifs de l'action publique. D'un côté, la protection du patrimoine, le développement économique, la qualité énergétique des bâtiments ou la prise en compte de l'habitat dégradé. Des tensions au rapport de force sont parfois identifiables entre différents services ou entre des élus de communes différentes dans le cadre de PLU intercommunaux. Ces controverses sont le plus souvent difficiles à retracer. Elles sont réglées souvent par des arbitrages internes plutôt que par des débats publics. Et le rôle des dispositifs de concertation ou des enquêtes publiques est le plus souvent minime au moment de la réalisation des documents d'urbanisme. Alors, il y a deux types de solutions qui sont proposées pour sortir des situations de conflit. D'abord, une volonté de sécuriser les documents d'urbanisme en rendant plus complexe le contentieux portant uniquement sur des questions de forme. Ensuite, une volonté d'améliorer la concertation, de fluidifier les relations entre les acteurs publics. Dans le cadre des PLU, on peut mettre en place des commissions ad hoc, qui parfois peuvent s'ouvrir à des acteurs du secteur économique ou à des associations. Et ces commissions peuvent jouer un rôle pour anticiper les conflits ou pour limiter les effets négatifs d'un certain type de controverses. Alors, notons aussi que dans un contexte où les dispositifs de participation sont relativement peu présents, il existe d'autres formes d'action collective qui semblent dynamiques et pouvoir attirer un public relativement important. Ce sont des actions qui ne sont pas directement liées aux documents d'urbanisme, qui sont portées par des associations ou différentes formes de collectifs, qui mettent en place des inventaires locaux du patrimoine, qui cherchent à faire un travail sur la mémoire collective des quartiers, ou qui mettent en place des actions culturelles prenant le patrimoine local pour prétexte. Une des solutions pour l'avenir serait peut-être de mieux connecter ces différents types d'expériences, ces différentes initiatives, avec la réalisation des documents d'urbanisme pour ouvrir le débat à un plus large public.